sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 18h sur Radio Aviva.
Radio Aviva, le Flash Info.
Bonsoir à tous. Des premiers éléments de compréhension dans l'affaire Kendji Girac. Le chanteur est toujours hospitalisé après avoir été touché d'une balle à la poitrine dans la nuit de dimanche à lundi à Biscarrosse. Cet après-midi, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a pris la parole pour évoquer les derniers éléments et la thèse de l'accident est écartée, Elsa Ruot.
Oui, le procureur en est sûr. Le tir était volontaire, contrairement à ce qu'a dit dans un premier temps le chanteur. D'ailleurs, Kendji Girac est revenu sur sa version en expliquant avoir voulu simuler un suicide pour faire peur à sa compagne, une compagne qui menaçait de le quitter. Le chanteur parle d'une impulsion, mais assure qu'il ignorait que l'arme était chargée. Au moment des faits, il était sous l'emprise de l'alcool avec plus de 2 grammes par litre de sang. Et ce jour-là, il avait aussi consommé de la cocaïne. D'après sa compagne, Kendji Girac avait déjà évoqué l'envie de mettre fin à ses jours dans le cadre de disputes conjugales.
Quant à l'arme, Kendji Girac ne prétend plus l'avoir achetée dans une brocante et explique qu'un voyageur en visite dans le camp lui aurait vendu pour 500 euros. Dans les Alpes-Maritimes, à Antibes, un jeune homme de 16 ans mis en examen et écroué, soupçonné selon le parquet de Grasse d'avoir nourri un projet de tuerie de masse sans connotation religieuse. L'adolescent présente des troubles psychiatriques. Des croix gammées ont été retrouvées sur les murs de sa chambre. Quel dispositif de sécurité pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ? Le préfet de police de Paris a précisé cet après-midi les contours du dispositif. Le périmètre de sécurité va couper Paris en deux pendant plus de 8 jours. Les immeubles riverains de la Seine seront placés sous protection. Le Moulin Rouge ouvrira bien ses portes au public ce soir, même si le cabaret parisien a perdu ses ailes tombées la nuit dernière. 3 lettres de la façade ont également chuté, mais il n'y a aucun risque d'effondrement, selon les pompiers de Paris. La piste de l'acte malveillant est écartée. Et puis la mort de Laurent Canté, le réalisateur avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 2008 pour son film Entre les murs, relatant le quotidien d'un collège difficile. Laurent Canté nous quitte à l'âge de 63 ans. Voilà pour l'info, excellente soirée. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. The dark. The scars are
l'actualité de vos sorties nocturnes
à Montpellier et dans l'Hérault.
Bienvenue dans Tempo. Cette semaine, je vous propose trois événements. Vendredi 27 avril, de minuit à 6h, le PZ City Club reçoit Essence of Time. Il sera accompagné de Cyril M en Room 1 et Rivox en Room 2. Entrée 15€, le PZ City Club, c'est 4 quais du Verdanson à Montpellier. Vendredi 27 avril, de minuit à 6h, au Diez Warehouse, Groove Station vous amène au Japon avec un invité de marque, LB aka Labatt. Entrée de 14 à 19€, le Diez Warehouse, c'est 188 avenue du Marché-Gare à Montpellier. Dimanche 28 avril, de 17h à 22h, à Tropisme, le Delta Tour vous propose un open air avec Azad, Disc et Ruffo. Entrée de 8,50€ à 13,50€, Tropisme, c'est 121 rue Foncouverte à Montpellier. Voilà, Tempo c'est terminé. Je vous souhaite de bonnes sorties sur vos spots préférés.
Tempo,
l'actualité de vos sorties nocturnes
à Montpellier et dans les Rhônes.
J'ai pas envie de rester, pas envie d'essayer, pas envie de regarder ma vie part en fumée. Quand je vois dans tes yeux qu'en fait toi tu t'en fous de ce que j'ai dans le cœur, de ce qui reste de nous. Comment ne pas vouloir partir quand t'essayes pas de retenir les éclats de ce qu'on a pu vivre et nos premiers sourires. Dis-moi pourquoi. J'ai envie de pardonner, je veux plus te regarder. Et si je peux pas t'effacer, au moins je veux avancer. J'oublierai bien plus tard que t'avais pas envie, que t'avais pas le temps, que toi tu t'en foutais. Des petites éraflures, des grandes égratignures, ce qui reste à l'intérieur, ce que j'ai dans le cœur, je sais pas pourquoi. Que les étoiles contemplent mes larmes. Et qu'elle décide le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes. Que le temps vacille et emporte le mal. Et comme le contemple mes larmes et qu'elle décide le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes. Que le temps vacille et emporte le mal. Et comme le
à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements et les sorties à venir. Les 29 et 30 avril 2024 sur le campus de l'université Paul Valéry Montpellier 3 et en visioconférence auront lieu les 10e journées du GDR Ecostat. En plus de différents exposés, une table ronde sur l'enseignement des statistiques pour l'écologie ainsi qu'une session d'échange sur différentes questions d'écologie seront au programme. Divers ateliers seront également proposés le lundi matin. L'inscription est gratuite mais obligatoire pour des raisons pratiques. Pour ce faire, rendez-vous sur la page internet de l'événement. Après une première saison l'année dernière, riche en découvertes de talents, le concours de stand-upper Track Up vous donne rendez-vous ce mardi 30 avril au Track Théâtre pour les demi-finales de cette nouvelle édition. Cet événement ouvert aux débutants comme aux confirmés est animé et dirigé par Baptiste Tinel, figure du stand-up montpelliérain. À l'issue de ce concours, le gagnant se verra programmé au Track Théâtre pour la saison suivante. Après le succès et l'enthousiasme suite aux représentations des spectacles de District Danse à l'Auditorium de la Cité des Arts, rendez-vous le mardi 30 avril à 19h à la Maison pour tous Marcel Pagnol pour la représentation de printemps. Découvrez ce soir-là trois différents spectacles créés cette année avec les habitants des quartiers Pas-du-Loup, Salle-Neuve et Aiglong. L'événement sera également suivi d'un DJ set. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page internet de District Danse. L'Institut des droits de l'homme du barreau de Montpellier et Facero vous propose le 30 avril un après-midi de redécouverte et de partage autour des droits de l'homme. Cet événement s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de la ratification par la France de la Convention européenne des droits de l'homme. L'événement se déroulera à l'Hôtel de Ville de Montpellier. Parmi les temps forts auront par exemple lieu des conférences et une intervention du maire de la ville. Ce 1er mai 2024, retrouvez à une trentaine de kilomètres de Montpellier, dans le village d'Agnan, les traditionnelles puces géantes. Les nombreux stands installés pourront recevoir les premiers visiteurs dès 6h du matin. Ces puces géantes, comme chaque année, sont le rendez-vous incontournable pour les chineurs de la région. Un événement gratuit et ouvert à tous, que ce soit pour faire de bonnes affaires ou simplement par curiosité en ce jour férié. Buvettes et restaurations seront également sur place, en plus des nombreux stands attendus. C'est tout pour cet agenda. À bientôt sur Radio Aviva. I'm not afraid to die.
Actif Emploi, mettez toutes les chances de votre côté avec Florian Mancion Institut.
Loïc Dourrière, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes associé donc du Florian Mancion Institut et on a le plaisir de vous avoir depuis quelques, j'allais dire, années presque, sur les ondes de Radio Aviva pour nous parler de l'emploi et de ce qui se passe donc dans la région. Alors, aujourd'hui, je vous propose de parler du TAF, c'est un grand mot, donc pour un salon de l'emploi, on peut dire, qui se déroule
Un peu partout, dans toute la région Occitanie. C'est organisé par la région Occitanie, c'est les grands salons de l'emploi qu'ils ont nommés TAF, Travail, Avenir et Formation.
Voilà, donc c'est ambitieux. Et je me posais la question, pourquoi avoir un salon, j'allais dire en physique, pour l'emploi, alors qu'aujourd'hui, on est dans le monde du numérique ou du digital.
Oui, c'est vrai qu'on peut se poser encore la question, après cette pandémie où tout a été digitalisé, la relation au candidat, la relation employeur-candidat a été très digitalisée. Les recruteurs, aujourd'hui, on reçoit tous ou des formulaires en ligne ou des emails, on fait des visios. Et c'est vrai que peu de poids peut être donné à la rencontre physique, en tout cas dans le premier contact entre le candidat et le recruteur. Et pourtant, les salons emploi font le plein. J'étais encore à celui de Montpellier la semaine dernière. Oui. Il y en a d'autres qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Béziers notamment, où je serai également. Et ça fait le plein. Ça fait le plein à la fois de stands, d'employeurs, de recruteurs, que ce soit des professionnels du recrutement comme nous au Florent Mancion Institut en tant que cabinet de recrutement, mais également ça fait le plein d'entreprises qui viennent recruter, notamment là il y avait des structures pour la saison, il y a aussi toute la partie formation. Donc les employeurs sont présents, les recruteurs sont présents et de fait piloté aussi par France Travail, le nouveau nom de Pôle emploi, il faut qu'on s'y habitue, on n'y est pas encore tous très habitués. Piloté, organisé par France Travail, des cohortes de demandeurs d'emploi qui viennent au contact.
Demandeurs d'emploi ou bien étudiants. Moi, je pensais qu'il y avait une majorité d'étudiants qui fréquentaient ces salons, mais il y a aussi des demandeurs d'emploi en recherche active d'emploi.
Il y a toutes les catégories. Il y a vraiment toutes les catégories. On part des plus jeunes qui sont effectivement les étudiants qui viennent aborder un peu le début du marché du travail, sentir un petit peu. Et ce qui est assez étonnant, c'est que on pourrait penser les plus digitaux. Et finalement, comme ils découvrent, ils ne savent pas encore bien, même dans le monde digital, où s'adresser, comment le faire. Et donc le salon de l'emploi, c'est un moyen de à un seul endroit de rassembler à la fois des organismes de formation, des organismes d'appui comme France Travail, comme les Greta, comme la région, ce genre de choses, mais également des organismes, des recruteurs, etc. Et donc ça leur permet aux plus jeunes de dire tiens, en une journée ou deux journées, je peux balayer quasiment l'intégralité d'un marché de l'emploi sur une zone, sur un bassin d'emploi. Pour les plus confirmés, qu'ils soient en recherche ou qu'ils ne soient pas en recherche, plus ou moins actives, ça leur permet de la même manière, là, d'aller au contact physique, parce qu'ils se sont bien rendus compte que parfois, c'est un peu déshumanisé la relation avec l'envoi d'un mail ou l'envoi, on ne sait pas bien s'il y a quelqu'un, exactement ce que cherche. Parfois, sur une annonce, comme elles ne sont pas toutes extrêmement bien rédigées, il faut bien le dire, on ne sait pas bien si on peut se positionner ou si on a eu tort de se positionner et donc si on a un retour ou pas de retour. Souvent, les salons d'emploi, c'est un moyen de mettre un visage, de mettre un contact, de se différencier aussi, de se démarquer pour certains demandeurs d'emploi ou personnes qui sont à la recherche. Donc, véritablement...
Il y a un lien, de toute façon, qui passe, une sorte de lien, alors je ne dis pas social, mais un lien, un institut personné qui peut permettre parfois de décrocher l'emploi auquel on n'aurait jamais pensé.
Exactement. Et en fait, il faut vraiment être curieux sur ces salons de l'emploi, ne pas se contenter de se dire « Ah, je vais aller à ce stand-là ou à ces stands-là que j'ai vu. » Non, il faut déambuler, regarder et pas hésiter à aller voir un stand où il n'y a pas forcément grand monde, se dire tiens, il n'y a personne, tiens, c'est peut-être différent, etc. Donc c'est à la fois un moyen de s'informer, un moyen de sociabiliser, de rencontrer des gens, de se confronter aussi au retour en en direct, hein, sur son CV, sur sa tenue, sur sa présentation, sur son élocution, parce que c'est en réel, là, pour le coup. C'est en réel, on va tester, on va regarder, on va voir, on va avoir le retour en temps réel. Bien quand sûr. On envoie son CV, la machine ne vous dit pas si ce qu'elle pense et vous ne voyez pas ce qu'elle pense de votre CV. Donc, il ne faut pas négliger le digital, parce que c'est souvent l'étape d'après.
Voilà, chose, ça mais... se complète, j'allais dire.
Nous, on aime bien le terme de figital, hein, physique et digital. Il faut savoir aujourd'hui combiner les deux habilement. Et ben dans l'emploi, c'est la même chose. Les salons de l'emploi physique, il faut y aller de la même manière qu'il ne faut pas oublier de postuler en ligne, etc.
Alors, moi, j'ai une question pour le recruteur, là. Lorsque vous allez dans ces salons appelés TAF, est-ce que vous découvrez vous-même des secteurs de l'emploi que vous n'auriez pas soupçonné en se disant, tiens, c'est le secteur qui recrute le plus, alors que j'attendais un autre secteur?
Oui, alors peut-être moins le secteur, et encore que c'est vrai qu'il y avait une belle représentation des métiers artisanaux.
Oui.
Toutes les chambres étaient présentes. Il y avait notamment les gens dans la restauration qui avaient des magnifiques stands où ils produisaient des gâteaux. Alors ça marchait, hein, ça marchait.
Ah, ça, forcément.
Forcément. Mais il y avait aussi les compagnons du devoir qui faisaient des terrasses, etc., et qui faisaient des démonstrations des métiers. Et c'est vrai qu'on a vu une puissance de ces métiers d'immanuel qui était extrêmement bien représentée. Parce que visuel, en fait, ils ont eu l'intelligence de dire, ben, on va montrer le métier. Hein, c'est vrai que sur les stands, parfois, ben, on voit un stand, on voit des annonces, mais on voit pas grand-chose de ce que est vraiment l'entreprise, etc. Et là, sur ces métiers manuels, ils ont eu cette intelligence. Je me souviens aussi d'un robot par une école qui montrait ce que faisait le robot. Ben, tout le monde regardait le robot, en fait, et donc forcément, ça attire, ça montre, etc. Savoir aussi en tant qu'employeur se montrer différemment, montrer véritablement la quintessence de son métier, c'est aussi attirer des candidats.
Bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, Loïc Doyère, on a compris que les métiers de l'artisanat, les artisans, eh bien, le blason est en train de se redorer et peut-être ce sont des métiers que l'on redécouvre. Merci beaucoup.
Merci.
C'était Objectif Emploi sur Radio Aviva. Objectif Emploi, un rendez-vous proposé par Florian Mentionne Institut.
Viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes, sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, je voudrais que tu te rappelles.
fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place, cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface like troubled water running cold, well time can heal but this won't. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, was never the right time, whenever you called, went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface like troubled water running cold, well time can heal but this won't. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So
Radio Aviva, partout, tout le temps. Sur la route, à la maison ou au travail, sur notre site radio-aviva.com, sur l'application gratuite pour smartphone et tablette, sur les box, les télés et enceintes connectées en demandant « Je veux écouter Radio Aviva ». Et désormais, profitez aussi de Radio Aviva en DAB+, à Nîmes. La radio numérique disponible sur la nouvelle génération de récepteurs radio et dans votre voiture.
Premiers éléments de compréhension dans l'affaire Kendji Girac. Le chanteur est toujours hospitalisé après avoir été touché d'une balle à la poitrine dans la nuit de dimanche à lundi à Biscarrosse. Cet après-midi, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a pris la parole pour évoquer les derniers éléments et la thèse de l'accident est écartée, Elsa Ruo.
Oui, le procureur en est sûr, le tir était volontaire, contrairement à ce qu'a dit dans un premier temps le chanteur. D'ailleurs, Kendji Girac est revenu sur sa version en expliquant avoir voulu simuler un suicide pour faire peur à sa compagne, une compagne qui menaçait de le quitter. Le chanteur parle d'une impulsion, mais assure qu'il ignorait que l'arme était chargée. Au moment des faits, il était sous l'emprise de l'alcool avec plus de 2 grammes par litre de sang. Et ce jour-là, il avait aussi consommé de la cocaïne. D'après sa compagne, Kendji Girac avait déjà évoqué l'envie de mettre fin à ses jours dans le cadre de disputes conjugales.
Quant à l'arme, Kendji Girac ne prétend plus l'avoir achetée dans une brocante et explique qu'un voyageur en visite dans le camp lui aurait vendu pour 500 euros. Dans les Alpes-Maritimes, à Antibes. Un jeune homme de 16 ans mis en examen et écroué, soupçonné selon le parquet de Grasse d'avoir nourri un projet de tuerie de masse sans connotation religieuse. L'adolescent présente des troubles psychiatriques. Des croix gammées ont été retrouvées sur les murs de sa chambre. Quel dispositif de sécurité pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Le préfet de police de Paris a précisé cet après-midi les contours du dispositif. Le périmètre de sécurité va couper Paris en deux pendant plus de 8 jours. Les immeubles riverains de la Seine seront placés sous protection. Le Moulin Rouge ouvrira bien ses portes au public ce soir, même si le cabaret parisien a perdu ses ailes tombées la nuit dernière. 3 lettres de la façade ont également chuté, mais il n'y a aucun risque d'effondrement selon les pompiers de Paris. La piste de l'acte malveillant est écartée. Et puis la mort de Laurent Canté. Le réalisateur avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 2008 pour son film Entre les murs, relatant le quotidien d'un collège difficile. Laurent Canté nous quitte à l'âge de 63 ans. Voilà pour l'info, excellente soirée.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaille.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue sur Radio Aviva. Bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Renaud Calva. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Jacou, vice-président du conseil départemental, premier vice-président de la métropole de Montpellier. On a beaucoup de sujets à évoquer ce soir. Il y a quelques jours, c'était la rentrée scolaire qui s'est faite au collège Arthur Rimbaud, Saint Samara, qui a été agressé il y a près de 3 semaines, violentée très fortement, une actualité qui a évidemment suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions à Montpellier et au plan national. Comment, Renaud Calva, lutter contre cette hyper-violence des adolescents, des jeunes? Des missions ont été conduites, le rectorat a pris le sujet en main, mais comment vous, côté métropole, côté ville de Montpellier, on peut solutionner cela?
Et aussi côté département, parce que vous savez, nous avons la compétence collège au sein du conseil départemental, et je veux vraiment avoir une pensée pour Samara, sa maman, sa famille. C'est extrêmement difficile ce qu'elle a subi, ce qu'elle subit encore. Il y a 2 choses qui sont différentes. Il y a la violence extrême qu'a subie Samara, totalement inacceptable, qu'il faut condamner. Il faut que la justice soit extrêmement ferme et que cela reste vraiment de l'ordre de l'exception, cette violence extrême. Et puis vous avez, à côté de cette violence extrême, vous avez aussi tout ce qui peut se passer au quotidien, le harcèlement, qui est peut-être moins prégnant, on n'en parle pas sur les ondes des radios ou dans les médias, mais qui aussi rend la vie beaucoup plus difficile des collégiens et des collégiennes.
Quel type de harcèlement?
Ça peut être de le harcèlement dans les toilettes, le harcèlement sur l'orientation de genre, le harcèlement sur le physique, le harcèlement sur les capacités sportives, ça peut être les injures que l'on reçoit, le fait d'être éloigné de ses camarades. Et cela, nous menons de nombreuses actions avec le rectorat, bien sûr, mais aussi dans les collèges de l'Hérault. On ne construit pas un collège aujourd'hui comme on le construisait il y a 40 ou 50 ans. On sait maintenant le lien qui existe entre le bâti et l'usage que l'on fait de ce bâti. Vous savez, pendant très longtemps, une cour de récréation sur un collège, c'était quoi? C'était une grande dalle de béton et vous aviez 20 personnes qui jouaient au foot et qui excluaient 400 autres qui étaient autour. Donc quand on construit des nouveaux collèges, comme ce sera le futur collège de Juvignac, comme pour Marianne, ou des travaux comme à Maraussan, à Béziers dans un an, on réfléchit à une conception différente du collège. On crée des recoins, des forums, des agora, de l'urbanisme, pour permettre aux enfants, aux adolescents de se parler, pas uniquement de se défouler. C'est ce qu'on faisait avant, on disait « Ah, ils sont à la cour de récréation, ils se défoulent ». Non, on est dans une cour de récréation, on échange, on parle.
Mais cette perception différente n'empêchera pas la violence, n'empêchera pas le harcèlement sur certains adolescents.
Alors, détrompez-vous, il y a de nombreuses études qui montrent que plus les élèves se parlent, plus ils communiquent entre eux, moins ils sont agressifs les uns vis-à-vis des autres. On a des expériences, on a des études qui le montrent. Cela ne réglera pas les phénomènes d'ultra-violence. C'est une autre problématique qui est liée, on en a parlé, aux réseaux sociaux, problématique familiale, mais il faut aborder les deux formes de violence et de harcèlement. Si vous n'en faites qu'un seul parce que vous êtes sur le parce que les médias en ce moment voient ce qui s'est passé dans deux collèges,
nombreux ces dernières semaines.
Mais ces cas sont nombreux et ils ne doivent pas cacher tout le travail qu'on doit mener sur les milliers de cas de harcèlement qui peuvent provoquer des drames humains, des problématiques dans la poursuite des études. Donc on a je sais que ça peut vous paraître peut-être insignifiant, mais la question du sanitaire ou comment est-ce qu'on peut se sentir en sûreté quand on va faire ses besoins physiologiques, alors que pendant des années, c'était un endroit où on se sentait en insécurité. Tout cela, on y travaille, on modifie les bâtiments, on met en place aussi des accompagnements, des êtres humains, des AED, avec le rectorat. On ne peut pas dire que c'est nouveau. Je vais vous le dire, moi j'ai été un collégien harcelé. Quand j'étais au collège Castelnau, quand j'avais 13 ou 14 ans, il y a quelques années de ça, presque 40 ans, j'étais un collégien harcelé. Et quand j'allais voir un adulte, moi, garçon, jeune garçon de 14 ans, 13 ans, harcelé, quand j'allais voir un adulte, on me disait oh, « t'es un homme, t'es un garçon, défends-toi ». C'était presque initiatique, le harcèlement. Aujourd'hui, vous n'avez plus un seul adulte qui va considérer que cela est normal.
Mais vous qui avez été harcelé, est-ce que vous avez eu l'oreille attentive du personnel éducatif, d'enseignants? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes sorti?
Il y a 35 ans, non. Ça a changé. Aujourd'hui, quand même, tout le monde trouve absolument scandaleux qu'un jeune adolescent ou une jeune adolescente soit harcelée dans son collège. Il y a 30 ou 40 ans, ça n'était pas le cas. C'était même presque, ça faisait partie de l'adolescence. Et on nous disait, défends-toi. Tu seras un homme, mon fils, si. Tout le monde connaît le poème de Rudyard Kipling. Tu seras un homme, mon fils, si. Donc, tu dois te défendre. Aujourd'hui, on considère que c'est du rôle de la communauté, de la société, de préserver et de protéger le jeune adolescent. On a peut-être oublié, mais c'est un pas énorme qui a été fait. Alors, est-ce qu'on réussit parfaitement? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut continuer encore et toujours à œuvrer? Oui, sinon, on n'a plus besoin d'avoir des élus ou des adultes. Mais cette prise de conscience, elle est là, elle est réelle. Et des actions sont menées. Et ça, je veux remercier aussi les professeurs, les agents du département, les agents du rectorat qui sont dans les collèges et qui font vraiment de leur mieux.
On pointe du doigt très souvent les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur la vie des adolescents et donc avec des conséquences sur la violence. Est-ce que le département a pris ce sujet aussi en main? Est-ce que des initiatives sont conduites?
Bien sûr, nous avons ce qu'on appelle des AET, donc des actions éducatives territoriales, où on accompagne les équipes pédagogiques pour donner des grilles de lecture aux adolescents du réseau social, de la formation, d'où vient la source. Vous parlez de la violence, mais les réseaux sociaux et les jeunes, la question de la désinformation est primordiale. Aujourd'hui, quand moi j'avais 14 ou 15 ans, je savais que j'allais sur l'Universalis, que je voulais avoir une information, j'avais une encyclopédie.
Elle était vérifiée.
Et elle était vérifiée. Mmh. Aujourd'hui, vous tapez n'importe quoi sur Internet et l'information n'est pas sûre, n'est pas vérifié, n'est pas juste. Vous, ton journaliste, à qui je vais le dire, la difficulté aussi. Donc, nous, au conseil départemental, on accompagne les enseignants, on a des modules de formation auprès des adolescents, à la fois sur la question de la lutte contre le harcèlement, le cyberharcèlement, mais aussi, ça c'est vraiment au cœur de notre travail avec les profs, sur comment je vérifie que ma source est fiable. Comment je fais que cette information, elle est vérifiée. Comment je construis mon esprit critique. Comment je me dis, bah tiens, j'ai une information, je vais aller la vérifier sur un autre support. C'est au cœur de ce que nous devons faire pour accompagner nos jeunes aujourd'hui.
On évoquait en début d'interview Samara, la maman de Samara. Est-ce que vous avez eu des nouvelles récemment? Et comment la rassurer? Comment lui permettre de revenir dans les meilleures conditions?
Alors moi je n'ai pas eu personnellement de nouvelles, puisque c'est vraiment le maire et puis le rectorat, puisque nous au conseil départemental, nous gérons les bâtiments, les collèges, mais cette partie humaine est gérée par madame la rectrice, qui je crois est en contact régulier avec la famille. Je peux comprendre qu'il faille du temps à Samara pour rejoindre son établissement. beaucoup doit être mis en œuvre pour qu'elle suive sa scolarité. Ça, c'est évident, mais c'est fait. Je sais que le rectorat et la DASEN le feront. Peut-être qu'il faut aussi que justice se fasse auprès de celles et ceux, des autres adolescentes qui l'ont harcelée et qui l'ont agressée, pour qu'elles se sentent aussi en sûreté. Dans les collèges, si vous me permettez d'en dire quelques mots, nous avons, nous, un plan de mise en sûreté de chaque établissement scolaire, de chaque collège de l'Hérault. Dans les 83 collèges de l'Hérault, l'agression de Samara ne s'est pas déroulée dans le collège.
Absolument.
Mais elle aurait pu se dérouler dans le collège. Là, elle ne s'est pas déroulée dans le collège. Mais pour chaque collège, on a un plan de mise en sûreté avec des caméras. On installe des caméras dans les halls. On installe des doubles sas. Vous savez que, enfin, nous avons de plus en plus de difficultés aujourd'hui, non pas entre adolescents, mais avec des adultes. Quand deux adolescents peuvent se disputer dans une cour de récréation, de plus en plus, on a des parents, des cousins, des oncles, des tantes, des frères qui viennent le lendemain en découdre et qui menacent les agents du département ou les agents
de l'État. Il faut aller plus loin en installant des portiques, certains évidemment. Mais, ils sont déjà installés dans la plupart des collèges.
Dans chaque collège, il y a ce qu'on appelle un plan de mise en sûreté, on peut rentrer dans le détail, qui détermine et qui est élaboré en partenariat avec les forces de gendarmerie ou les forces de police, le conseil départemental et le rectorat. Et donc, on détermine, j'étais il y a quelques jours à l'ODEV, avec monsieur le principal, il y a quelques jours, pour déterminer comment on pouvait améliorer la sûreté à l'entrée du collège. Un papa s'était mal comporté quelques jours plus tôt avec un agent de la loge, avec une femme qui fait l'accueil des enfants. Et donc, on a identifié les pistes d'amélioration. Donc, on a installé une caméra, le double sas existe déjà, améliorer l'entrée. Ce sont des petits détails. Mais ça, heureusement que Samara, et c'est un drame affreux, mais heureusement que ça n'est pas tous les jours. En revanche, ces petites violences au quotidien qui pourrissent la vie des adolescents et des agents dans le collège, là, c'est quotidien. Et donc, on met en œuvre ces actions. Caméra, bouton poussoir pour l'alarme, par exemple, que ce soit facile d'accès. Et on a identifié ces actions à faire dans les 83 collèges de l'Hérault.
Un débat s'est imposé dans la société depuis quelques jours sur le couvre-feu pour les adolescents, les moins de 13 ans. On sait que la ville de Béziers l'a installé depuis le 22 avril. La ville de Nice va l'installer à partir de début mai. Vous êtes maire de Jacou. Est-ce que, en tant que maire, vous estimez qu'il faut appliquer cette règle du couvre-feu?
Alors, je n'ai pas de problème moral sur le principe du couvre-feu lorsqu'il est utilisé dans un cas précis de violence précise. Dire « il ne se passe rien dans ma commune et je mets en œuvre un couvre-feu », c'est même décrédibiliser le rôle du couvre-feu. Le couvre-feu est utilisé en cas de guerre civile, de danger imminent, de problème majeur. Est-ce que c'est le cas à Nice? Je ne sais pas. Si peut-être monsieur le maire de Nice a estimé qu'il fallait le mettre, peut-être que c'est la guérilla à Nice tous les soirs, je n'en sais rien. Je pense que je suis un peu ironique, vous l'avez compris. Mais je n'ai pas de problème avec le principe même d'un couvre-feu pour les enfants de 13 ans. La place d'un enfant de 13 ans n'est pas d'être dans la rue à 1h du matin. En revanche, pour que ce soit la puissance, l'autorité, la puissance publique, le maire ou le conseil municipal qui le décrète, il faut que la situation le justifie. Donc on soit dans un danger ou un moment de violence qui le justifie. Sinon, le jour où la violence, c'est comme Pierre qui crie au loup, quoi. Le jour où là, vraiment, on sera dans une situation difficile, on n'aura plus d'armes.
Mais on peut considérer que c'est un des outils pour lutter contre la délinquance juvénile.
Mais bien évidemment, lorsqu'il y a eu des émeutes ou des moments extrêmement difficiles, ne serait-ce que pour protéger les adolescents, moi je fais partie de ces élus qui continuent à défendre l'ordonnance de 45, vous voyez, qui dit que le mineur peut être coupable, mais lorsqu'il est coupable, il est aussi victime d'un manque éducatif de la part de ses parents, de la communauté, etc. Donc c'est évident que si on considère que le mineur est victime, il faut aussi le protéger. Donc bien évidemment, un enfant de 13 ans, si vous avez des émeutes le soir dans une commune, des poubelles qui brûlent, c'est absolument inadmissible qu'un mineur de 13 ans soit dans la rue, même si le code pénal prévoit déjà des sanctions si le mineur de 13 ans brûle une poubelle. Donc est-ce qu'il faut aller jusqu'aux parents? Mais bien évidemment, enfin, comment est-ce qu'on pourrait considérer que les parents n'ont pas de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants? Maintenant, on sait aussi que vous pouvez avoir des parents dépassés pour lesquels c'est difficile, et donc C'est de la dentelle qu'on doit faire là-dessus. On ne peut pas se permettre de la démagogie sur des questions aussi difficiles. Donc, vous pouvez avoir des parents qui n'en ont rien à faire et des parents qui sont dépassés et on ne les traite pas de la même façon. On ne les accompagne pas ou on ne les sanctionne pas de la même façon.
Estimez-vous qu'on est dans la démagogie aujourd'hui dans notre pays sur ces questions-là? Tout le monde y va de sa propre mesure.
Je trouve que on est dans la démagogie dans notre pays sur tous les sujets. Je suis quelqu'un qui aime la nuance, qui aime la modération, vous le savez, et qui pense que sur ces sujets-là, comme sur tous les autres sujets, on a besoin de se poser de nuances et de déterminer les actions justes à mener après une analyse juste. Donc j'ai en horreur toute forme de démagogie, quelle qu'elle soit.
Sans nier évidemment les problèmes qui sont ceux que nous observons en ce moment.
Mais c'est encore mieux que sans les nier. Le plus difficile, le plus grave même, c'est d'être dans la démagogie, de ne pas proposer de solutions qui fonctionnent. Notre rôle à nous, élus, choisis tous les 6 ans, moi en tant que maire, par les concitoyens, c'est pas uniquement de dire, c'est de faire. Si je suis sur un plateau de télé ou de radio, et je suis très heureux d'être avec vous uniquement pour hurler et dire, et que au final je ne sers à rien, je reste à la maison, quoi. Donc je préfère être en dehors de toute forme de démagogie, analyser un problème, préconiser des solutions efficaces, les analyser, savoir si on doit faire mieux la fois suivante. Mais en dehors de toute instrumentalisation politique, quelle qu'elle soit, parce que je dois être utile et je dois être au service des concitoyens qui m'ont choisi.
On passe à un autre sujet. Renaud Calva, vous êtes notre invité ce soir sur Radio Aviva. Je voudrais qu'on revienne sur la gratuité des transports à Montpellier et dans la métropole, puisque ça fait près de 4 mois maintenant que la gratuité est installée. Quel bilan faites-vous, alors vous, de votre côté, et puis des métropolitains, des montpelliérains qui utilisent les transports?
Alors vous savez, je porte avec Michael Delafosse, Julie Fraîche, je porte fièrement ce grand projet de gratuité des transports. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, 4 mois après la généralisation de la gratuité, 70% des habitants de la métropole de Montpellier, 70% des habitants sont détenteurs d'un pass gratuité. On a des journées où la TAM accueille plus de 300 000 usagers dans une journée. Ça ne s'était jamais produit. Faire un bilan, il faudra le faire au bout d'un an de fonctionnement, parce que c'est très difficile de comparer mois par mois, la météo change, etc. Mais aujourd'hui, tous les indicateurs sont en hausse, ça fonctionne bien. Les citoyens, en tout cas avec lesquels j'échange, tout le monde me dit que c'est un vrai plus. C'est un plus à la fois social pour les habitants de la métropole, parce que c'est du pouvoir d'achat en plus, mais c'est aussi une autre conception des mobilités. Le fait de dire que le droit à la mobilité pour les habitants de la métropole est d'avoir une mobilité qui ne construit pas un bilan carbone catastrophique, parce que c'est ça, tout le monde se dit j'ai droit à la mobilité, mais si ce droit-là produit quelque chose de dangereux pour la communauté, on peut le remettre en question un jour. Mais là, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire. J'étais aujourd'hui avec le maire de Tours, j'ai déjeuné avec le maire de Tours, qui est un maire écologiste, qui est venu rencontrer Michael Delafosse pour justement s'inspirer de ce que nous avons fait ici sur la gratuité des transports. Donc c'est un grand projet vraiment que Michael Delafosse réussit et qui va être très inspirant.
Beaucoup ont craint l'autre facette de cette gratuité, vous le savez, l'absence de contrôle suffisant, d'équipe humaine, de l'insécurité galopante. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui ont pu douter il y a quelques mois et qui doutent peut-être encore?
Mais que des opposants... Je fais une différence entre ceux qui doutent de façon légitime et puis ceux qui s'opposent par principe.
Mais disons tout, ceux qui doutent légitimement, par exemple, il peut y en avoir.
Aujourd'hui, nous faisons la gratuité en même temps que la réalisation de la ligne 5 du tramway. Au dernier conseil de métropole, les élus qui étaient aux responsabilités il y a 6 ans nous reprochaient la gratuité, mais étaient en responsabilité et n'avaient pas planté un seul rail sur la ligne 5 du tramway. Aujourd'hui, les travaux, vous les connaissez, certains s'en plaignent, mais ils avancent et dans un an, la ligne 5 sera, en septembre 2025, la ligne 5 sera, du tramway sera inaugurée. Donc, on réalise la ligne 5 du tramway, on a lancé les lignes de bus tram pour rejoindre les communes zones plus éloignées de la métropole. Et nous avons mis en œuvre la première police métropolitaine des transports. Déjà, 20 agents ont été recrutés. Donc, je préfère... Ça, c'est un choix, vraiment, c'est un choix citoyen et politique. Je préfère avoir des policiers qui contrôlent la sûreté dans le tramway ou dans les bus pour qu'une personne, une femme seule, puisse se sentir à l'aise dans le bus, plutôt que d'avoir un contrôleur qui vérifie simplement si votre application est à jour. Là, on a recruté des policiers qui sont assermentés et qui assurent la sûreté dans le transport. Alors, il y a encore à faire, attention, mais heureusement, tout n'est pas encore réglé. Mais c'est la première fois qu'on crée une police métropolitaine des transports qui, à terme, sera composée de 35 policiers.
Autre crainte, alors là, pour le coup, des opposants politiques, c'est les répercussions sur les budgets de cette gratuité. Vous avez présenté, il y a quelques semaines, un budget métropolitain. Est-ce que vous nous assurez que les choix qui seront faits sur 2024-2025 ne viendront pas mettre à mal des politiques autour de la culture, du sport, de l'économie, parce qu'il y a la gratuité des transports ?
Alors, les budgets sont assez sectorisés à la métropole. Mmh. Et de plus en plus, c'est le législateur qui le veut ainsi, nous avons ce qu'on appelle des recettes affectées. Pour financer le transport public, en France, la principale recette provient des grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle le versement mobilité. C'est une taxe que payent les grandes entreprises. C'est un pourcentage de leur masse salariale. Cette contribution versée par les entreprises de la métropole est en grande augmentation. C'est lié au dynamisme de la métropole. Et donc, pour vous donner deux chiffres qui sont vraiment flagrants, cette contribution rapportée en 2018-2019, j'enlève le Covid qui est un moment un peu complexe, à peu près 80 à 85 millions d'euros par an. En 2024, nous percevrons 120 millions d'euros par an de versement mobilité.
Non, beaucoup plus.
Donc, plus de 35 millions, entre 35 et 40 millions d'augmentation sur 7 ans. 7 ans. La question est, avec ces 35 millions d'augmentation de recettes, ça a été un choix politique de Michel Delafosse, de Julie Fraîche et de la majorité et des maires de la métropole. En faisant la gratuité, c'est aussi de la redistribution de la richesse. Cette richesse-là, payée par les entreprises, elle est produite par les salariés. Elle est aussi produite par les ouvriers dans les grandes entreprises. Donc, à un moment donné, c'est aussi de la juste redistribution de la richesse produite sur le territoire.
Et tiendrez-vous sur la durée ? Alors, tiendrez-vous jusqu'en 2026 et au-delà sur cette politique-là, sans pour autant augmenter les impôts ?
Alors, je vais dire à vos auditeurs de faire un petit test, si vous êtes d'accord. Vous prenez votre application impôts.gouv.fr et vous regardez quel est l'impôt métropolitain que vous payez. Je ne sais pas si vous habitez dans la métropole.
Absolument,
Olivier,
à Montpellier.
Est-ce que vous savez combien d'impôts vous payez à la métropole de Montpellier par an ?
Par an, globalement, probablement pas à ce micro.
Non. Je ne veux pas vous piéger, c'est quelque chose que les gens n'ont pas conscience de cela. Moi, je suis propriétaire d'une maison à Jacou qui fait 85 mètres carrés habitables, une zone de village, 60 mètres carrés de cour. Je paye 3 euros d'impôts par an à la métropole. Vous prenez votre taxe foncière et vous regardez la colonne intercommunalité. Le taux est à 0,01. En moyenne, les métropolitains payent quand ils sont propriétaires, parce que s'ils ne sont pas
évidemment
propriétaires, ils ne payent pas d'impôts métropolitains. Je ne parle pas des taxes affectées, la taxe sur les ordures ménagères ou la GEMAPI. Je parle de l'impôt métropolitain pour financer les politiques publiques que vous venez de présenter, la culture, le développement économique, le sport, les transports. La métropole de Montpellier n'est pas financée par les impôts de ses habitants. C'est un choix historique qui date il y a 25 ans, date de l'agglomération de Montpellier et de Georges Fraîche, c'est la fiscalité économique des entreprises qui, principalement, financent la métropole de Montpellier. Donc, nous n'augmenterons pas les impôts, nous ne les augmenterons pas, mais ma première ressource, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la question du développement économique, c'est d'attirer des entreprises. Ces entreprises, c'est de gauche, je le dis, je l'assume, c'est pour pouvoir redistribuer de la richesse, je dois la produire. Donc, nous accueillons des entreprises parce que c'est cette fiscalité-là, que nous redistribuons ensuite avec les politiques publiques et entre autres la gratuité des transports en commun.
Parlons de politique et aussi peut-être de tempête. Ça semble tanguer entre la majorité et les Verts.
Non, je ne parlerai pas au nom du groupe municipal de Montpellier, parce que je ne suis pas élu de Montpellier, mais vous avez, à ma connaissance, 12 élus écologistes au conseil municipal de Montpellier et 8 sont encore dans la majorité avec Mickaël Delafosse. Donc 4 ont souhaité quitter la majorité. Donc 4,
on peut pas dire que ça tangue,
4 sur 8. Ah, ça tangue. Je ne sais pas si c'est le mot. Je ne vous dirai pas que ça tangue parce que nous avons un cap. Donc en général, le bateau tangue quand il n'y a pas de cap. Donc nous, on a un cap. On sait où on va. On veut gérer la question des déchets qui est un scandale absolu. Peut-être qu'on en reparlera. Mais ce qui se passe dans cette intercommunalité depuis 25 ou 30 ans,
c'est un scandale
absolu. Parce que les déchets des habitants de Montpellier, de Jacou, de Clapiers, de Cassel ou Saint-Jean-de-Védas, on les envoie chez les autres. Parce que depuis qu'on a fermé, que la décharge de Casserie en 2019 a été fermée par le précédent président, enfin sous la mandature précédente, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais nos déchets, ils s'évaporent pas naturellement dans l'air comme ça. Ils sont pas dans les terres. On les envoie dans des décharges à ciel ouvert, dans le Tarn, Perpignan. Vous imaginez que par chaque année, 4500 camions circulent sur la Neuf avec les déchets de nos concitoyens, avec nos déchets qu'on ne veut pas voir et qu'on envoie chez des gens plus pauvres que nous.
Comment entendez-vous régler ça?
C'est immoral.
Comment entendez-vous régler ça?
En faisant ce que font toutes les autres intercommunalités en Europe, en les gérant sur notre territoire. Et c'est ce que nous avons porté avec le CSR, avec René Revol, le maire de Grabel, qui assure maintenant cette responsabilité. On a un cap. Le cap, c'est d'arrêter cette gabegie environnementale, d'avoir les déchets des habitants de la métropole de Montpellier dans des décharges à ciel ouvert. C'est pire que cela. Au-delà du coût, 27 millions d'euros par an. C'est très intéressant cette discussion. Le surcoût des déchets exportés des habitants de la métropole de Montpellier, c'est l'équivalent en dépenses de la gratuité des transports dans la métropole de Montpellier. Parce que nous ne savons pas gérer nos déchets depuis des années et des années dans la métropole de Montpellier, ça nous coûte aussi cher que la gratuité.
Donc vous avez un cap.
Donc
et un calendrier.
Bien évidemment, le calendrier, vous le voyez, c'est le lancement du marché sur Amétis. C'est ensuite, vous connaissez la procédure. Vous avez un marché public, 2 ans, une construction, 2 ans, et l'ouverture dans 4 ans du CSR qui va nous permettre de mieux trier et ensuite de devenir autonome sur nos déchets. Le plus grave, c'est que l'Europe, et heureusement, l'État, et heureusement, ont décidé que d'ici 10 ans, il n'y aurait plus de décharges à ciel ouvert. Ces décharges à ciel ouvert, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la nappe phréatique, c'est une catastrophe pour l'environnement. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas à côté de chez nous qu'elle n'existe pas. Nos déchets sont dans des décharges à ciel ouvert à 200 km de chez nous. Et je m'excuse, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a souvent des politiques en disant on est localiste, on veut locavore, on veut manger les tomates et les courgettes cultivées à 100 mètres de chez nous. Mais il faut que les déchets de ces tomates et des courgettes, on les gère à 100 mètres de chez nous. On les envoie pas à 200 km chez les autres.
Plus léger, pour terminer, il nous reste une minute, Renaud Calva. La flamme olympique, c'est le 13 mai, ici, à Montpellier. Beaucoup de fierté pour cette ville.
Oui, beaucoup de fierté pour la ville de Montpellier, pour l'Occitanie, parce que cette flamme va arriver avec beaucoup d'espérance aussi. Elle va traverser de nombreux quartiers de Montpellier. Ça va être une grande fête, un petit moment de joie. Le monde, c'est difficile, donc le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a beaucoup parlé de violence tout à l'heure, au début de l'entretien. Si on peut parler un peu des vraies valeurs olympiques, pas du sport business quoi, mais des vraies valeurs olympiques, du dépassement de soi, de l'esprit d'équipe, de l'amitié, de la fraternité entre les peuples, ça va faire du bien quoi.
Confirme, ça va faire du bien. Merci Renaud Calva.
Merci
maire
à
de Jacou, vice-président du conseil départemental et premier vice-président de la métropole, vous étiez mon invité ce soir sur Radio Aviva. Merci beaucoup.
Merci.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaye.